Monsieur Jean-Pierre Chevènement est en train de saluer tout le monde, c'est notre invité d'honneur. Bienvenue monsieur Chevènement. Jean-Pierre Chevènement publie Le monde qu'on leur prépare en duo avec Luc Chatel. Voilà quelque chose d'assez étonnant. À droite, à gauche, un entretien croisé dirigé par Nicolas Bétou. C'est pour l'éditeur Plomb que Luc Chatel et Jean-Pierre Chevènement se sont rencontrés. On va y revenir dans un instant et on va parler de ce monde qu'on leur prépare pour l'école, pour l'économie, pour le rôle de l'État dans la vie politique française. Mais d'abord, merci d'avoir accepté de jouer le jeu parce que ce n'est pas forcément évident. Ça vous a amusé d'avoir la voix déformée comme ça et de piéger mes camarades?
Je n'entendais pas la déformation de ma voix.
C'est vrai. Mais tout de même, les questions qu'ils ont posées, parfois, vous ont surprise.
Ah, c'était amusant.
Oui. Vous avez dit artiste, alors vous m'avez surpris, artiste.
Ah, ben, l'art de la politique, l'art oratoire. Ah, je vous ai dit l'art est divers. Ah, oui. Il y a mille manières.
De... Et c'est l'art de nous embrouiller, quoi. Pour trouver la réponse.
Il y a l'art militaire aussi, maintenant que vous êtes président de la commission de la défense au Sénat.
Et c'était aussi par rapport à votre femme, peut-être.
Et peut-être aussi, voilà. Qui sculpte et qui peint.
Jean-Pierre Chevènement, Luc Chatel, réunis pour le monde qu'on leur prépare. Alors, écoutez, je dois dire que ça m'a un peu amusé quand j'ai feuilleté, je vais pas mentir, j'ai pas encore lu dans son intégralité votre livre, mais j'ai commencé, puis surtout je suis allé voir voilà, tous les différents chapitres et je me suis dit, il y en a quand même un des deux qui est plus bavard que l'autre et c'est vous, Jean-Pierre Chevènement. Parce que la plupart du temps, la contribution de Luc Chatel, c'est de dire absolument, oui, je ne suis pas d'accord, peut-être, sûrement. Ah oui, il n'y a que vous qui parlez dans ce dialogue.
Non, Luc Chatel est un homme très habile.
Concis.
Car il se garde bien de se mettre en désaccord avec moi sur le plan des principes. Par exemple, il est pour l'effort, il est pour le travail. Mais quand on aborde la semaine qui a été réduite à 4 jours, à ce moment-là, il endosse. Hein, avant, c'était 9 demi-journées. On est passé de 9 demi-journées à 8. Alors voilà, je lui pose la question, comment peut-on travailler mieux en travaillant moins? Alors, j'ai pris cet exemple, je pourrais en prendre beaucoup d'autres.
Vous avez pris cet exemple parce que, je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas par hasard, évidemment, que les éditions Plomb vous ont réuni. C'est parce que lui est d'abord toujours ministre de l'Éducation en exercice, que vous l'avez été vous-même. Et vous avez un autre point commun, c'est le ministère de l'Industrie, qui a été votre premier ministère.
Voilà, Luc Chatel m'a dit un jour, voilà, nous avons fait successivement les deux mêmes ministères, quelques années d'intervalle, bien sûr. Donc, ce serait peut-être intéressant de faire un livre. Je me suis dit pourquoi pas et ça m'a permis de me recycler un peu parce que je continue à m'intéresser de très près aux questions d'éducation fondamentales. Donc, vous verrez, il y a une franche opposition de conception. Monsieur Chatel défend l'école comme une entreprise qu'il faut manager. Il veut lui appliquer des recettes managériales. Il pense que ça se gère comme une entreprise. Et moi, je défends l'idée que l'école est plutôt une institution de la République qui repose sur des valeurs permanentes, hein, dont chacun à tous les niveaux doit être conscient, le savoir, l'effort, l'autorité des maîtres qui tient à leurs compétences et à leur rôle dans la République.
Ça c'est sur l'éducation, sur l'économie, alors j'imagine que là aussi il y a des grosses divergences entre lui et vous.
Alors il y a une totale divergence sur l'économie. Disons que, évidemment, lui chante la mondialisation, c'est un des chantres de la mondialisation heureuse, vous voyez que c'est encore un art. Hein, chanter. Et moi, je suis plutôt un critique de la mondialisation libérale telle qu'elle s'est faite.
Voilà pourquoi vous nous avez répondu tout à l'heure, quand vous étiez voix déformée dans la loge, que le succès d'Arnaud Montebourg hier au primaire vous a fait plutôt plaisir.
M'a fait plutôt plaisir parce qu'il porte des idées que je crois justes. C'est vrai que cette mondialisation biaisée, hein, au profit de pays à très bas coût, bien avec un euro surévalué par rapport au dollar et au yuan, aboutit à la désindustrialisation de la France, à un chômage de masse. L'industrie représentait 30% de notre production globale, du PIB, en 1982, quand j'étais ministre de l'Industrie. Aujourd'hui, c'est 13%. Donc, on voit les délocalisations. Et moi qui ai visité toute la France, j'ai vu des régions où les usines étaient nombreuses, etc. Et quand j'y retourne, ce sont des friches industrielles. Je pense pas à ma région, le Nord-Franche-Comté reste industriel, mais je pense par exemple à la Picardie. Ou bien à la Lorraine, où il y avait 80 000 personnes dans la sidérurgie. Il en reste 6 000. Par contre, il y en a 90 000 qui vont travailler dans les banques luxembourgeoises. 90 000 Lorrains. Quand on a vécu un certain temps, on peut faire des comparaisons sur 25 ou 30 ans. Donc on voit bien ce qu'est devenu notre pays. Et je lisais un économiste connu, Patrick Artus, dans justement le supplément des Échos, qui disait « Pour moi, je le crains, c'est foutu. » Et je ne voudrais pas que ce soit foutu. Donc je me bats pour que ce ne soit pas foutu.
Le monde qu'on leur prépare. Des conversations, des entretiens entre Luc Chatel et Jean-Pierre Chevènement, avec Nicolas Bétou au milieu entre les deux. Pourquoi Stendhal ? Demande Pierre Bénichou à Jean-Pierre Chevènement, qui est notre invité d'honneur, Jean-Pierre Chevènement, qui publie Le monde qu'on leur prépare chez Plon. Et oui, c'est vrai que le premier indice, c'était une chanson de Serge Gainsbourg. Il évoquait Stendhal et Stendhal, alors Jean-Pierre Chevènement.
Mais il se trouve que dans la promotion de l'ENA, qui était la mienne en 1965, il y a eu un affrontement gauche-droite au fond. Il y a ceux qui voulaient donner à cette promotion le nom de Turgot, c'était la droite, et puis il y a ceux qui mettaient en avant Stendhal, qui n'avait pas été un fonctionnaire formidable, il avait été et fini consul à Civita Vecchia, mais enfin c'était un grand écrivain, et il avait tant de dons, et c'était pour moi une idole. Donc Stendhal l'emportait, c'est pour ça que même Jacques Toubon, Lionel Jospin, Ernest Seigneur de Laborde sont de la promotion Stendhal.
Comme vous, c'était le premier indice. Le deuxième ? Vous avez deviné alors celui-ci ? C'est une marche militaire, c'est pas parce que vous avez été ministre de la Défense, c'est parce que cette marche militaire s'appelle Paris-Belfort. Vous la connaissiez ?
Je la reconnaissais, oui.
Troisième indice.
Les feuilles molles où je voudrais tant que...
Vous pouvez nous dire qui chante alors ?
Jospin ?
C'est un de mes anciens camarades de promotion, c'est Lionel Jospin.
Oui. Ah oui. Chez Sébastien.
Lionel Jospin n'est plus votre ami aujourd'hui.
Disons que nos opinions politiques ont toujours différé. Quand je lui ai proposé d'adhérer au CRS en 1965, justement, il m'a dit que tant que Guy Mollet serait à la tête du Parti Socialiste, ça ne lui conviendrait pas. En fait, je pense qu'il avait d'autres raisons. Il a adhéré un peu plus tard, en 1973, quand j'ai fait le travail. J'ai quand même écarté Guy Mollet de la direction du Parti Socialiste pour aider François Mitterrand à devenir premier secrétaire au Congrès d'Épinay. Donc Lionel Jospin a pu adhérer. Il a fait la brillante carrière que vous savez.
L'indice numéro 7, on n'est pas allé jusque-là, mais j'ai envie de vous le faire écouter parce que j'aimerais que vous réagissiez à cet indice.
De toute manière, quand on n'est pas d'accord avec la politique qui est menée par le gouvernement, c'est simple. Ou on ferme sa gueule ou on démissionne. Vous connaissez cet adage, donc on peut s'appliquer à chacun. À chacun sa règle de fonctionnement. Donc lorsqu'on n'est pas d'accord, on fait un choix. Soit on se tait, soit on s'en va.
Vous avez reconnu sûrement Madame Nadine Morano qui vous cite. Alors est-ce que vous avez vraiment prononcé cette phrase, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ?
Oui, je l'ai prononcée en février 1983. C'était la veille de ma démission du gouvernement.
C'était
Mauroy,
votre première démission. Hein.
Au moment de ce qu'on a appelé l'ouverture de la parenthèse libérale. C'est d'ailleurs Jospin qui a parlé de cette parenthèse libérale. Et on sait qu'elle ne s'est pas refermée à ce jour. Elle se refermera peut-être.
Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, ça reste d'actualité, cette phrase ?
Ben, c'est un principe déontologique. Vous savez, même François Mitterrand, qui a été 11 fois ministre sous la 4e République, me parlait avec beaucoup de fierté de sa démission du gouvernement Laniel, quand Laniel avait envoyé le sultan Mohamed V à Madagascar. Eh bien, Mitterrand avait démissionné pour dire qu'il était...
Vous, trois fois, hein, vous avez démissionné. Hein,
moi, je démissionné trois fois, c'est relativement peu. Mais oui, c'est peu, parce que j'aurais pu démissionner beaucoup plus souvent, parce que j'étais en désaccord beaucoup plus souvent, et je suis quand même resté presque 10 ans ministre.
C'est vrai.
C'est-à-dire que j'ai battu le record juste après Jacques Lang, qui, lui, n'a pas démissionné.
Non, si c'est pas le genre.
Si ça vous intéresse, on a le futur président du Cameroun, là, qui...
Je vous remercie, en tout cas, Monsieur Chevènement, d'avoir choisi notre émission pour déclarer officiellement votre candidature à l'Élysée en 2012.
Ah bon, je ne sais pas, je vous l'avais déjà déclaré.
Vous allez le faire là, maintenant.
Ah, je vous ai dit que je vous le ferais savoir.
Non, vous avez dit oui.
Alors, Montebourg ne sera pas candidat, il va peut-être pencher vers François Hollande, c'est ce que nous dit Paul Vermus, plutôt que vers Martine Aubry. Vous lui conseillez de faire quoi à Arnaud Montebourg ?
C'est difficile de donner un conseil. J'ai beaucoup de sympathie pour les candidats en lice, qui restent en lice. J'apprécie le talent de François Hollande, qui est incontestable, et la sincérité de Martine Aubry, qui ne l'est pas moins.
Mais est-ce que le fait d'avoir une analyse qui n'est pas exactement semblable à celle de Paul Vermus ne vous gêne pas ?
Pourquoi est-ce que je voudrais être toujours d'accord avec Paul Vermus ?
Non, non, vous venez d'être gaullien.
Et l'échec de Ségolène Royal, on terminera par ça.
Oh, j'ai un peu de peine parce que j'ai gardé beaucoup de sympathie pour Ségolène. Nous avions passé un accord politique. Elle a préconisé devant le Congrès des socialistes européens l'élargissement des missions de la Banque centrale pour que la Banque centrale, et c'est toujours d'actualité, puisse contribuer à la croissance et à l'emploi, racheter par exemple des titres de dette publique pour casser la spéculation. Tout ça, c'était d'avant-garde. Mais il y a eu un tel tollé chez les socialistes européens et même français que, j'ai un peu reculé. J'ai de la sympathie pour elle, je lui dis que ce n'est qu'un moment à passer. Un courage, Ségolène.
Châtel et Chevènement sont réunis dans un livre, Jean-Pierre Chevènement, Luc Châtel, Le monde qu'on leur prépare. Si vous voulez lire ces entretiens croisés et dirigés par Nicolas Bétou, surtout si vous voulez lire du Chevènement, hein, plus que du Châtel, parce que vous serez, vous serez un peu en manque si vous voulez lire du Châtel, mais si vous voulez lire du Chevènement, c'est chez Plon, Le monde qu'on leur prépare.
C'est un livre très courtois, je tiens à le signaler, mais un livre de technicien et sans concession.
Merci, monsieur Jean-Pierre Chevènement, d'avoir accepté notre invitation. À demain, 15h30 pour Ovation. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.